Avec sa seconde place à Monza, Sainz a-t-il assuré son avenir chez Ferrari? Quid de celui de son équipier Leclerc? Que manque-t-il au prodige monégasque pour devenir champion du monde, à l'instar d'un Verstappen qui écrase la concurrence? Max est-il devenu le meilleur pilote F1 de tous les temps? Cette domination va-t-elle le conduire à quitter la discipline dès 2028? Enfin, le décryptage de la crise chez Alpine. Et bonjour à toutes et à tous, voilà un beau programme, très heureux de vous retrouver pour ce 8e numéro d'On refait la F1. Merci pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker bien sûr la vidéo. Vous le savez, On refait la F1, c'est chaque jeudi après un Grand Prix et comme chaque semaine ou presque pour arbitrer nos fanas du paddock dont l'expertise n'est jamais de mauvaise foi contrairement à nos chroniqueurs, notre team principal. Eric Boulier, Radio Tchèque, Eric.
Radio Tchèque, bonjour les
amis. Radio Tchèque.
Loud and clear.
À tes côtés, Eric, notre polémiste de la F1, fan de Lewis Hamilton et de son écurie Mercedes, qui a bien du mal en ce moment. Monsieur Laurent Pantanache.
Bonjour tout le monde.
Et eux ont retrouvé des couleurs. Ils sont un rouge vrombissant. Hein. Je ne sais pas si ça se dit en duplex, les deals du village. Ben, ici à Paris, Fabrice Marcella, alias Pépone. Bonjour.
J'applaudis Fabrice. Maintenant.
Oui.
Bonjour à tous.
Et à tes côtés, un autre homme d'église de l'église Ferrari, monsieur Alain Duca, alias Don Camille, Monseigneur, ça va bien?
Bonjour à tutti.
Et quant à moi, vous le savez, je demeure un fan du doyen des pilotes, mais qui se modifie avec les années. C'est comme moi, Fernando Alonso. Allez, on enchaîne avec le débrief du Grand Prix d'Italie, avec notamment Ferrari et Carlos Sainz qui retrouvent des couleurs. Du côté de Maranello, on souffle un immense ouf de soulagement après ce prix, ce Grand Prix à domicile. Plus surprenant encore, le regain de forme de Carlos Sainz qui a dominé tout au long du week-end, notamment son équipier Charles Leclerc. Surpris, nos amis tifosi?
Alors, surpris, non. Enfin, en tout cas, c'est la meilleure course de Ferrari de l'année. C'est une des courses en plus où on voit une voiture enfin devant les Red Bull, au moins pendant 15 tours. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu d'autres cas depuis le début de la compète. Et puis, ça a fait quand même le show en fin de course, avec des pilotes qui se battaient pour la troisième place. Donc moi je trouve que c'est un très très beau Grand Prix. Bien sûr, on espère mieux, on espère surtout une première place. Il va falloir qu'on soit un petit peu patient encore, je pense.
Ouais, donc, Camille,
les
cierges que tu as mis, que tu as brûlés au fil des Grands Prix ont porté leurs fruits. Une super défense hein, face à Verstappen, notamment de Sainz. Et Leclerc, moi, ça m'a vraiment surpris, ce regain de forme de Carlos Sainz, Alain.
Oui, on dirait qu'il est, par rapport à Charles, hein, où là, c'est un peu la... on en parlera tout à l'heure, mais hein, une petite déception quand même. Carlos a l'air serein, efficace, peut-être parce qu'il y a d'autres discussions derrière qui vont dans le bon sens pour lui, allez savoir, mais là, on ne le saura pas tout de suite, mais ouais, il est très bon, hein, alors que Charles fait des bêtises. Hein.
Je ne sais pas si vous savez, mais c'est grâce à Sainz que les tribunes ont été pleines. Ils ont eu beaucoup de mal à vendre leur billet compte tenu des résultats effectivement de Ferrari. Puis suite à la pole position de Sainz, ils ont réussi à remplir les tribunes et avoir les 305 000 spectateurs qu'ils ont eu. Donc bravo également à Sainz pour ça.
Les amis en plateau, Laurent et Eric, on pensait que Sainz était relégué au rôle de numéro 2. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas eu de consignes d'équipe. On a même eu peur à un moment donné.
Après, Sainz est quand même devant depuis le début de la saison, hein, donc au classement. Donc, on peut le reléguer au numéro 2. Tout le monde s'accorde sur le fait que, a priori, Leclerc est meilleur pilote. Hein, tu vois, il a un plus beau parcours, il a prouvé plus de choses. Mais depuis le début de la saison, c'est Sainz qui est devant Leclerc au classement. Alors, il a eu plus de chance, il a eu moins de malchance, il a fait moins de, mais il est devant. Donc. C'est toujours difficile, un numéro 1, numéro 2.
Eric, ça relance en tout cas son avenir. Carlos Sainz au sein de la Scuderia, tu penses?
Je ne pense pas. Je pense que dans les plans, en tout cas, effectivement, Charles Leclerc en tout cas, a un contrat déjà à plus long terme. Et je pense que Sainz, effectivement, comme l'a dit Alain, est un peu plus serein. Donc, effectivement, on a tous entendu les rumeurs de discussions, notamment avec Audi. Alors peut-être que ça a avancé un peu plus vite que prévu.
Tu penses qu'il a déjà signé, ça l'a libéré?
Je pense qu'au vu de la carrière de Carlos Sainz, les choix qui ont été faits, sortir de Red Bull, aller chez Renault, chez McLaren, chez Ferrari, ils ont toujours anticipé en tout cas les décisions. On le retrouve là où on ne l'attend pas. Et donc je ne serais pas surpris qu'avec Andreas Seidel chez Audi, que c'est un pilote qui est, comme tu l'as dit, il est peut-être pas le plus vite, en tout cas le plus flamboyant, mais en tout cas il est là.
Il est le mieux encadré.
Il a délivré chez Toro Rosso à l'époque. Il a quand même été là aussi comme un pilier de base chez McLaren quand ça n'allait pas. Chez Ferrari, il est là, alors que Charles peut-être se cherche un peu. Donc c'est alors, quelqu'un sur qui on peut compter.
Il s'est fait virer. Il était chez Renault, il s'est fait virer. On l'a oublié aussi. Il était il est parti chez McLaren, mais ça, Ricardo a pris sa place. Hein, souviens-toi.
Ouais, c'est pas vraiment viré. Il a anticipé, on va dire. Donc
c'est cette capacité à anticiper.
Ouais, il a plutôt cette capacité à anticiper, à rebondir. Et c'est quelqu'un en plus qui parle bien, qui présente bien, qui plaît aux sponsors, et dans le cadre d'un constructeur comme Audi, c'est important.
Ouais, et sachant qu'Audi est proche de son papa historiquement aussi. Quand il était chez...
Pas historiquement, il fait le Dakar chez Audi. Oui.
Ouais. Alors les amis, qu'est-ce que vous pensez des réflexions d'Eric, qui sont intéressantes, hein, et si l'avenir de Sainz est plutôt du côté d'Audi, quelle alternative à Sainz l'année prochaine du côté de Ferrari? On a vu que la rumeur Hamilton s'est éteinte puisqu'il a signé un contrat de 2 ans avec Mercedes juste avant le Grand Prix de Monza. Comme un pied de nez à Ferrari. C'est une petite pique. Fabrice, il m'en veut pas.
Moi, je signerais Albon, perso.
Tu signerais Albon?
Ah ouais, c'est le pilote qui m'impressionne.
C'est celui qui parle. Enfin, c'est étonnant. Hein,
c'est le pilote qui m'impressionne le plus sur les 20 pilotes aujourd'hui. Je trouve que c'est celui qui tire le plus de sa voiture. Tu vois, Géry, là, il a une voiture qui n'est pas exceptionnelle. Je trouve que ce qu'il fait est exceptionnel.
En tout cas, il exploite à plus que 100%. Les garçons du côté de les Ferrari, qu'est-ce que...
Il a montré sur ce Grand Prix. D'ailleurs, l'interview post-Grand Prix, génial. Hein, il dit, je pense que Lando ne doit pas dire la même chose que moi. Mais moi, je me suis éclaté, quoi. Je pense que l'autre, derrière, il n'en pouvait plus, quoi. Mais il a défendu... C'est une grosse, grosse défense.
Hein. Eric, tu es d'accord, hein, c'est vrai qu'il a été pas mal critiqué lorsqu'il était chez Red Bull. Il a perdu son volant chez Red Bull.
Mais tout le monde a perdu son volant chez Red Bull, à part Max. Hein.
Moi, je serais un peu plus mesuré quand même. Je pense que quand on s'épanouit chez Williams, c'est une chose. Aller chez Ferrari, c'est quand même 3 niveaux au-dessus de pression. C'est pas tout à fait la même approche et on connaît des pilotes qui se sont cassés les dents. Je pense qu'aujourd'hui Ferrari doit d'abord régler le problème Leclerc avant d'aller chercher un deuxième pilote. Après, je pense que ouvrir la porte chez Ferrari des pilotes, la liste elle à part Lewis, y en a beaucoup qui souhaiteraient être là-bas, quoi.
Ouais. Allez, quel successeur éventuel, brièvement, du côté des tifosi, vous verriez à côté pour remplacer Sainz? C'est vrai que le marché est assez... Enfin, il n'y a pas 50 000 possibilités pour Ferrari en ce moment.
Hein. Oui, moi j'aime bien Lando Norris, par exemple.
Il a un bon contrat, apparemment, en béton.
Voilà, mais c'est un pilote, notamment cette année, je trouve un très très bon pilote. Et je le verrais bien à côté, pour challenger un petit peu notre ami Charles Leclerc, ce serait un pilote, à mon avis, qui ferait sens pour Ferrari.
Écoute, on va avoir une réponse assez rapide puisque le contrat de Leclerc et de Sainz arrive bientôt à son terme. Justement, Leclerc, parlons-en. Quel avenir pour Charles Leclerc? Tu le disais à l'instant, Alain, Leclerc traverse plutôt une mauvaise passe. Il a été dominé tout le week-end par Carlos Sainz. Et on peut même penser que sans DRS, Alain, il aurait perdu le contact avec son coéquipier.
Oui, je vais un peu plus loin. Laurent a un petit peu parlé de ça, mais le nombre d'erreurs qu'il a pu commettre cette saison commence à être important. C'est moi qui polémiquerai, parce que j'adore Charles, donc il n'y a pas de problème là-dessus, mais il faut qu'il trouve un bon sophrologue. Il faut qu'il se calme. Mais j'adore Charles, quoi. Et moi, j'espère qu'il y arrive. C'est clair qu'il doit souffrir de la suprématie de Max, parce que c'est deux gars qui se côtoient depuis très longtemps. Mais bon, c'est pas tout. Il faut arriver vraiment à gérer ses émotions. Et là, il a de gros problèmes là-dessus. En ce y compris, je trouve des réactions post-Grand Prix ou juste pendant la course qui au niveau, je vais dire, nom de Ferrari, écurie Ferrari, me pose à moi problème aussi. Il y a un moment, il faut savoir tempérer ses ardeurs, quoi. Voilà. Et donc, la sophrologie, un bon sophrologue. Oui. Voilà, c'est mon conseil.
Moi, j'ai une question quand même. Il aurait doublé Sainz dans le dernier, dans la chicane 1 au dernier tour. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Il est sur le podium, on le prend pour un héros. Il a été dominé tout le week-end et finalement, il se retrouve sur le podium devant Sainz. Tu vois, ça se joue à pas grand-chose, hein, parfois.
Non, mais elle est quand même symptomatique, cette volonté de passer absolument son équipier. Pardon, Fabrice.
Oui, il aurait pu sortir son équipier et là, c'était la catastrophe aussi, en fait. Donc, c'est là où. Est-ce que c'était le moment ? Finalement, pour lui, d'essayer de prouver quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il a quand même commencé son Grand Prix en faisant un copier-coller de la configuration de Sainz. Donc, à un moment donné, c'est bien aussi de laisser à Sainz, même si je préfère un Charles Leclerc, c'est vrai. Mais je trouve que là, c'était trop, en fait. Je fais un copier-coller de la config, je ne suis pas premier en pôle. Ouais. Et à la fin, je risque de tout faire péter parce que j'ai envie d'y être juste devant, quoi. Donc
l'ambiance dans les prochains Grands Prix risque d'être un peu tendue.
Ça va se tendre un peu. Ouais. Et puis, pour reprendre ce que tu disais, Fabrice, il y a une expression dans le paddock qui est quand même from hero to zero. Hein, donc c'est vraiment très très facile de, comme tu l'as dit, sur le dernier tour, tu peux être le héros ou tu peux être le zéro. Après, c'était un peu risqué, effectivement, de les laisser courir. Maintenant, ça a été génial de les voir se battre comme ça, mais ça a quand même passé deux, trois fois très, très, très limite, quoi.
Oui.
Après, c'était un week-end sans, quoi. Charles n'était pas là, Charles n'était pas forcément... ça ne marchait pas, comme tu dis. Le départ de la course, il est en réglage de Sainz. Et Sainz était peut-être sur un nuage. Donc, le fait que les deux... écoute, tant mieux pour Sainz. Je pense que Charles, effectivement, a connu un début fantastique chez Ferrari en gagnant des courses et en étant idolâtré. Le revers de la médaille, c'est quand ça se passe moins bien, effectivement, il y a de la frustration, il y a autre, et je pense que dans sa tête aussi, il a dû être courtisé par d'autres équipes, en tout cas, tout le monde le sait. Et il y a un moment, tu te poses des questions, qu'est-ce que je fais ? Je reste chez Ferrari, est-ce que je suis entendu, pas entendu ? Changement d'état-major, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de bouleversements chez Ferrari, à lui de retrouver sa position, sa motivation, et surtout... de rester bien, bien focus, comme on dit.
On sentait bien que Ferrari a tout misé hein, sur cette course. On peut me dire tous les moyens ont été mis pour que l'équipe ne soit pas ridicule à Monza. Je suis désolé pour nos ferraristes, mais c'est la vérité. On en a vu les ailerons, les évolutions de la voiture, alors que les autres écuries proposaient quasiment aucune évolution. Donc c'était un Grand Prix important. C'est presque étonnant qu'ils se soient laissés comme ça s'affronter en fin de Grand Prix. Est-ce que, en prenant le problème à l'envers, ça montre que, justement, Leclerc a un statut spécial au sein de Ferrari et on dit pas à Leclerc, on fiche les positions.
Non, je pense qu'il n'y a pas de statut entre les deux. Aujourd'hui, ils sont à égalité.
En tout cas, c'est une sacrée prise de risque qui a été prise par Fred Vasseur. Nous, on s'est régalé, hein, mais voilà. Tu l'as dit, Alain, il commet pas mal de fautes, tout simplement. Il me fait penser un petit peu au début de Verstappen où il était éblouissant et il commettait des... quelques erreurs, il surconduisait et c'est vrai qu'il a besoin de trouver une certaine tranquillité, une certaine constance qu'a parfaitement su acquérir aujourd'hui Verstappen. Un Verstappen qui a évolué, on va en parler tout à l'heure parce qu'il y a un sujet qui lui est consacré, est-ce que c'est devenu le meilleur pilote de tous les temps, mais on voit que la vie de Verstappen a évolué depuis qu'il est en couple, il est plus tranquille, il est plus cool, il est un peu moins jet-setter, il est un peu moins sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est pas forcément le cas d'un Leclerc qui est très, très, très sollicité. Il a publicité. Voilà, c'est une icône en Italie.
Oui, c'est devenu un influenceur. Ah, bah voilà, la pub, effectivement, que j'ai vue sur les chaînes italiennes également. Mais voilà, c'est devenu un influenceur. Enfin, c'est attention à ne pas tomber et devenir le Nabila de la Formule 1. Quoi. Enfin, c'est pas possible. C'est à un moment donné, on ne comprend pas pourquoi il ne se concentre pas sur les courses. C'est ça qu'on lui demande. On s'en fout de le voir sur Twitter ou en train de se prendre en selfie avec les stars américaines.
Enfin, pour poser la musique. Et en vente pas mal d'ailleurs, pas mal de streams. C'est important ce cocon familial, savoir se recentrer sur sa famille, sur ses amis, être bien entouré. Quand tu étais team principal de McLaren ou de Lotus F1, tu faisais attention à ces points-là. Tu étais obligé de recadrer quand tu avais un Raikkonen, quand tu avais un Grosjean qui, souviens-toi, dans ces années-là, avait tendance un petit peu à...
Ouais. Oui, tu recadres, mais après les contrats sont effectivement quand c'est la course, tu contrôles, quand c'est privé, tu contrôles pas, mais
C'est il y a un peu de ça, tu penses, pour Leclerc?
Je pense qu'il y a un peu de ça, effectivement. Je sais qu'en France aussi, il y a pas mal de publicité avec Charles. Donc, effectivement, il a été ultra sollicité ces derniers mois. Après, il y a un équilibre à trouver. Je sais que sa vie privée a été chamboulée aussi. Donc, il y a peut-être des choses, effectivement, pour lui. Mais à lui de remettre, comme on dit, l'église au milieu du village, hein, pour faire la référence à Ferrari.
Ben oui.
Et effectivement, de pouvoir aussi se mettre dans une position où il doit lui-même construire sa... tu vois, à l'inverse, comme tu dis, Verstappen, qui était, c'est vrai que c'était un petit peu le bazar au début, mais un chien fou, étant très jeune aussi, tu vois, et le succès arrive et tout.
Maturité.
Et alors lui, c'est l'inverse, il a construit des murs et il s'est mis en famille, il a construit son couple il est très serein aujourd'hui. Je pense que c'est ce que Charles doit faire aussi, et ça passe par aussi des vérités par rapport à son équipe sur ses engagements F1, sur sa carrière, sur ce qu'il veut faire, quoi. Donc s'il y a un moment, il faut que la tête soit bien mise et bien à l'endroit.
Allez,
Mais Eric, ouais. Tu dates cette stabilité de Max Verstappen de quand? Parce qu'une fois qu'il a gagné la première fois finalement le championnat du monde, c'est quand même peut-être plus facile, entre guillemets, de se dire c'est bon, j'ai réussi à le faire. Quoi.
Donc, ça a contribué.
Ça date d'avant.
Avant. D'accord. Okay, déjà, Max, enfin, il y a le Max public, il y a le Max pilote de course, il y a le Max privé. J'ai la chance de le connaître en privé. J'étais là d'ailleurs, sa première victoire à Barcelone, et on avait fait soyer ensemble. Mais c'est quelqu'un qui est très mature en fait pour son âge, et en fait c'est lui très tôt en fait, et avant d'être champion du monde, bien avant en fait, dès sa première année chez Red Bull, il a commencé à décliner autour de lui et mettre son entourage au pas, et même son père quelque part et tout. Donc il a vraiment pris sa vie en main lui-même.
Allez, on continue sur Ferrari et la perspective de l'année prochaine et du toute nouvelle F1. Je le disais tout à l'heure en préambule, rien espéré cette année pour Ferrari, et à Monza était vraiment l'unique chance de remporter à la régulière une victoire, Eric, cette année. Ils ont tout misé sur...
Oui, ils avaient tout misé. C'est une stratégie que certaines équipes appliquent de temps en temps, en tout cas appliquaient. C'est un Grand Prix national en plus pour Ferrari, mais effectivement sur des tracés particuliers où on développe un kit aéro particulier comme Monza ou Spa ou d'autres circuits, on mise un peu sur ça pour essayer de sauver son année, si je puis me dire ça. Mais oui, ils ont fait la pole. Après, en rythme de course, ils n'étaient pas là encore. Maintenant, ils sont sur le podium. Donc, au moins, ils ont eu un step en avant. Ils sont allés chatouiller Red Bull. Donc, c'était bien.
Mais ça veut dire que ça ne va pas forcément se confirmer dans les prochains Grands Prix.
On verra.
Parce que
on verra. Je sais qu'ils ont annoncé.
Monza est très typé. Vous l'avez bien compris.
Oui, très typé. Oui. Mais bon, après, je crois qu'ils disent tous on a compris des choses sur la voiture. À Singapour, ce sera mieux. Enfin, bon, c'est toujours la promesse du Grand Prix d'après. Mais on verra. Voilà.
Laurent. Sur le plus long terme, on sait que Ferrari a annoncé qu'il allait totalement changer de philosophie de voiture l'année prochaine.
Mais bon, ils changent.
Ils sont vraiment dans l'impasse cette année.
Tous ils changent de philosophie de voiture. Ils lancent tous la photocopieuse de la Red Bull. Hein.
C'est ça la prochaine
Monaco,
Ferrari.
Non, mais depuis Monaco, où on a le. Depuis Monaco, où on a vraiment la photo du fond plat, là, ça y est, il n'y a plus rien. Tu vois, à l'extérieur, il l'avait. À la limite, les surprises, c'est quand Red Bull sort une nouvelle évolution. Les gars, ils disent merde, il faut repartir sur la planche. Ouais. Parce que c'est évolutions. Non, quoi, tu vois,
ils sont toujours en retard, parce que c'est le problème quand tu es en retard.
Red Bull dit, mais on ne comprend pas que les gens ne comprennent pas notre valeur ajoutée. Ce n'est pas compliqué, notre DRS. Ils ne comprennent pas comment les autres ingénieurs n'arrivent pas à copier.
C'est le petit jeu, mais après, tu vois San Martin qui est là au début de la saison parce qu'ils ont la philosophie Red Bull. Tu vois, McLaren qui copie Red Bull et qui du coup se retrouve aux avant-postes, évidemment qu'ils vont tous faire la même chose.
Bon, on voit que c'est compliqué.
Ça a toujours été ça. Hein.
Alors, les Ferrari, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? L'avenir, c'est copier Red Bull? Est-ce qu'il recopier ce qui marche plutôt qu'aller essayer de chercher des solutions qui soient 100% italiennes?
Ouais, il n'y a pas trop le choix.
Le problème, c'est qu'on aura quand même du retard. C'est ce que tu disais, Eric. C'est-à-dire que, oui, on va copier l'édition 2023. Et voilà, donc la version 2024, elle aura forcément évolué.
Alors, il faut trouver
la fonction.
C'est ça qui est compliqué, effectivement.
Donc, sacré challenge pour Fred Vasseur pour l'année prochaine. Cette année, il semble assez tranquille. On va commencer vraiment à l'embêter, je pense, l'année prochaine, parce que ce sera véritablement sa voiture et sa stratégie pour l'année prochaine. Assez pas de Ferrari, on va parler maintenant de Verstappen. Verstappen semble vraiment en état de grâce en ce début de saison, même plus qu'en début de saison. Hein. On peut se poser même la question, c'est ce qu'il n'est pas devenu le meilleur pilote de tous les temps. 10 victoires d'affilée en F1, c'est historique. Une de plus que l'année magique de Vettel, qui était déjà éblouissant. On met en avant qu'il dispose, et on est les premiers, Laurent et moi, à critiquer le fait qu'il dispose d'une voiture exceptionnelle, mais il faut bien reconnaître que son pilotage est tout autant, Laurent.
Moi, je le trouve très, très, très impressionnant. Et on parlait, tu le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il avait un peu ce côté chien fou, même... L'exemple, c'est pour moi, c'est Monza où il monte sur le toit de d'Hamilton. Hein, sur, ça arrive plus, quoi.
Il aurait pu faire très mal. Hein, cette
pu, oui, tout à fait. Mais je reviens pas là-dessus. Ce que je veux dire, c'est tu vois, c'est, pour moi, c'est les dernières erreurs, c'est les dernières grosses erreurs de Verstappen. Et derrière, maintenant, il est vraiment impressionnant. Il est même serein, quoi. Tu vois, il est tellement en osmose avec la voiture, il est tellement à l'aise. Et je pense que le gars, il est triple champion du monde, hein, dans quelques heures. Hein. Il faut remettre les choses. Hein, sauf terrible accident, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas, tu vois. Il peut être champion du monde constructeur à lui seul.
C'est fou, hein.
C'est marqué assez de points pour que finalement.
C'est terrible pour Pérez.
Sans Pérez.
On le disait tout à l'heure, Eric, par le passé, il n'hésitait pas à être limite, hein, pour imposer sa loi. Très dur, voire viril depuis son premier titre. Et il est beaucoup plus patient, on l'a vu à Monza. Il a attendu le 15e tour et il n'a pas tout misé au premier virage. Donc ça, c'est vraiment une évolution. On l'a dit, sa vie personnelle, il doit y jouer. Mais quand on fait le parallèle avec un Hamilton ou le parallèle notamment avec un Schumacher, on savait que Schumacher, par moment, il pouvait péter un plomb. On l'a vu lorsqu'il est revenu chez Ferrari avec son ancien coéquipier Barrichello, hein, où il a serré contre le mur. Il pouvait bloquer une voiture dans le dernier virage à Monaco et il a été disqualifié quand il était chez Ferrari. Il apprend de ses erreurs, hein, Verstappen.
Ils apprennent tous. Hein, La différence, c'est que là, il n'a pas une voiture exceptionnelle. Il a effectivement la meilleure voiture et la voiture, elle a été faite pour lui. Donc, c'était déjà la première différence. Parce que quand on voit aussi, Pérez aujourd'hui, Pérez, il ne gagne pas toutes les courses ou il n'est pas tous les week-ends sur le podium. Donc, c'est quand même.
Il y a
aussi ça. Et ça, ça a développé. Il a tout le package. Il a mis tout le package en fait en place. Il a sa vie privée qui est au point. Ses relations familiales avec son père qui sont au point. Avec son écurie, la voiture, elle est parfaite. Il est effectivement au top de sa forme. Donc après, si Red Bull, dans un an, deux ans, trois ans, n'est plus aussi dominateur, ce ne sera pas forcément le même pilote qu'on reverra parce qu'il n'y aura plus la même sérénité.
Les Ferraristes, ce sera à voir. Est-ce que vous pensez que, qu'il a atteint, qu'aujourd'hui, il est le meilleur pilote de tous les temps ? Allez, ça va vous faire mal, mais allez-y.
De tous les temps, je ne sais pas. En tout cas, 10e victoire consécutive. Personne n'a gagné à part lui depuis le mois d'avril. Alors, je sais que ce que je vais dire va encore agacer ceux qui nous regardent sur Ferrari, mais ce qui compte pour moi avant tout, c'est que Ferrari gagne. Il gagne avec Charles Leclerc ou avec Pérez. Avec Pérez. Encore moins avec Pérez. Mais avec Sainz, je m'en fous, en fait. Et donc... Je fais la proposition à Max. Rejoins-nous, s'il te plaît, Max.
Ou alors Scoop, voilà, Pérez,
oui,
Pérez chez Ferrari.
Du moment, quoi. De quoi ?
Scoop, Pérez chez Ferrari, c'est.
Ouais, non, là, c'est. Là, j'ai très loin, là.
Ah, c'est bon, c'est même plus la peine d'espérer un titre. Non, blague à part, Alain, on sait que. On parlait de Schumacher, j'étais un petit peu dur tout à l'heure avec lui, mais il avait eu au moins, à un moment donné, après sa deuxième couronne d'affilée chez Benetton, pris l'immense risque de quitter une écurie qui était installée, qui était dominatrice, pour aller chez une écurie où rien fonctionnait, bien que Jean Todt soit déjà là à l'époque, et a mis 4 ou 5 ans à rebâtir avec Jean Todt Ferrari. Est-ce que
Hamilton
toi...
a fait pareil. Hein? Hamilton a fait pareil. Hein?
Hamilton a fait pareil, oui. Mais est-ce que ce n'est pas ça qui permettrait à Verstappen de définitivement dorer son blason au Panthéon de la Formule 1? Parce qu'en plus, s'il fait ça,
d'accord.
Qu'il gagne avec
Olivier,
une autre
écurie. Olivier, tu es un mage. Non, mais tu as raison. En gros, les plus grands, pour moi, c'est ceux qui ont gagné les championnats du monde dans différentes écuries.
Ouais.
Bon, difficile de s'appeler Fangio, hein, faut être très clair. Quand on regarde ce qu'il a fait, c'est absolument hallucinant. Mais c'est clair que je vois pas où Max pourrait aller rehausser ça autrement que chez Ferrari. C'est tout.
Ouais.
Et de gagner les championnats du monde chez Ferrari. Mais...
Alors, en tout cas, il aura le choix entre arrêter ou venir chez Ferrari, c'est tout. Quoi. Enfin, il n'a pas beaucoup plus de choix que ça.
Qu'est-ce qu'il irait faire chez Mercedes ou ailleurs ?
Alors, arrêter, tu as lâché le mot, hein, une telle domination, à tel point que le double champion du monde, bientôt triple, hein, c'est quasiment fait, pourrait quitter la F1 plutôt que prévu. Rappelons qu'il n'a que 25 ans. V Verstappen restera-t-il en F1 ? La question peut paraître stupide, mais à plusieurs reprises, Max a laissé entendre que sa carrière en F1 n'allait pas s'inscrire dans la durée, à l'instar d'un Alonso ou d'un Hamilton. Son contrat avec Red Bull court jusqu'à la fin de la saison 2028. Et entre-temps, une nouvelle réglementation moteur va arriver en 2026. Et le pilote néerlandais se plaint beaucoup cette saison et que la saison est longue, qu'il y a de plus en plus de courses sprint, qu'il y a des changements de qualification et énormément de sollicitations marketing. On regardait notamment ce qu'il a déclaré au Télégraphe, qui est un journal néerlandais. Hein, je cite Max. Il a dit, par exemple, je passe plus d'un mois par an sur des activités marketing. À un moment donné, on n'a plus envie de continuer. Est-ce que c'est de l'info ? Est-ce que c'est de l'intox, selon vous ? Est-ce que c'est un moyen de mettre la pression sur ses employeurs ? Laurent ?
Il y a deux choses. Pour moi, je vois deux choses dans ce que tu dis. La première, c'est il faut se rappeler que Max, c'est un produit automobile. Hein. C'est-à-dire que depuis qu'il a 3 ans, tout tourne autour. Il n'est jamais allé à l'école. Il a étudié.
Son père l'a programmé pour ça.
C'est ça. C'est vraiment un robot et ça paye. Hein, donc, c'est peut-être, je ne pense pas que ce soit le meilleur pilote de tous les temps, mais par contre, ça restera un très grand pilote, et on se rappellera de Verstappen, on oubliera son père, on se rappellera que de lui. Ça, c'est la première chose. Après, je pense qu'il ne peut pas s'arrêter, moi. Je pense que ces mecs-là, quand il y a un robot qui a été picousé depuis qu'il est tout petit... Oui, mais que ce soit Schumacher, je pense que ces gars, ils auraient beaucoup de mal à arrêter. Je pense que moi, c'est plutôt de la négociation publique pour, dans les contrats, essayer de négocier. Et tu nous as déjà raconté plein de fois les deals, hein, où tu faisais des demi-après-midi, des heures avec Alonso, où tu négociais un nombre d'heures et tu ne donnais pas le même nombre d'heures pour essayer. Parce qu'en fait, quand tu gères une écurie, tu as des sponsors, tu dois obtenir, et tu te rends compte que c'est l'enfer de faire entrer dans le calendrier tout ce qu'on t'a demandé, quoi. Donc, je pense que c'est aussi une façon de négocier, de faire croire qu'ils se lassent, mais je pense qu'ils ne se lassent pas du tout.
Eric, ils sont de plus en plus sollicités pour reprendre, si tu peux raconter un petit peu ton expérience, ils sont de plus en plus sollicités pour des opérations marketing. Il n'y a plus de d'essais en vrai, je dirais, à part les essais du jeudi et du vendredi et du samedi. Bref, ton sentiment tout simplement.
Alors oui et non en fait.
Raconte l'histoire d'Alonso.
Il y a de plus en plus de grands prix, donc ça c'est sûr qu'ils sont plus sollicités, mais en même temps quand tu es sur un grand prix du jeudi au dimanche, autant le faire. Après oui, la F1 je crois a signé 49 nouveaux sponsors l'année dernière, en 2022. Donc qui dit sponsor dit effectivement obligation marketing. Bon, n'empêche que la vie des pilotes, on aimerait bien l'avoir quand même, parce que bon, s'il n'a qu'un mois à faire d'activité marketing par an sur les 12, ils ont encore quand même beaucoup de temps libre. Ils ne sont pas aussi, si je peux me permettre le mot, exploités que la NBA, que le football, que donc il y a quand même. Je pense que c'est un peu plus la complainte. Après, il y a deux choses avec lui. C'est vrai que depuis l'âge de 3 ans, il est quand même, sa vie tourne autour des circuits. Donc je pense qu'il peut avoir une certaine lassitude à 25 ans qu'un pilote, on va dire, plus classique, entre guillemets, aurait à 28 ou 30.
Ouais.
Je pense que c'est un petit peu la complainte de celui qui domine tout aujourd'hui, qui vit dans sa bulle. Une bulle qui lui sert, hein, puisqu'il gagne tout. Il fait record après record. Donc c'est plutôt la complainte de celui qui est bien établi. Mais demain, s'il arrête la F1, il va lui manquer quelque chose, puisque effectivement, depuis l'âge de 3 ans, c'est sa vie. Donc, je ne pense pas qu'il
va s'arrêter. Citation d'Aymoun Marco, hein, le patron de la FIA Red Bull, qui est assez intéressante. Hein, il ne dément pas. Je comprends ce qu'il veut dire. N'oublions pas qu'avant chaque course, il doit faire au moins un jour en simulateur, ce qui n'est pas le cas de tous les pilotes. On en parlera avec Eric. Et même s'il a réduit ses obligations de relations publiques et de marketing, il en reste encore, sans oublier qu'il doit maintenir et développer sa condition physique. Après tout ça, il lui reste naturellement très peu de temps libre pour lui et ses proches. Très honnêtement, je ne pense pas que Max restera aussi longtemps en Formule 1 qu'un pilote comme Fernando Alonso, par exemple. À un moment donné, il dira juste « j'en ai assez » et il s'en ira juste comme ça.
Oui, c'est possible.
Étonnant.
Ouais, non mais encore une fois.
Il n'est pas aussi accro. Regarde Alonso.
Non, je pense qu'il a.
Alonso, c'est l'exemple. Pardon, Laurent, c'est l'exemple opposé. Tu nous la racontais. Eric, Alonso, il mise tout sur sa carrière. Il n'a pas de relation stable, longue durée avec tous ses mariages sont mal terminés. Il n'a pas d'enfants. Enfin, vraiment, la compétition, c'est toute sa vie. Hamilton, c'est exactement la même chose. Alors qu'on sent que l'approche d'un.
Chez Ferrari, c'est la même chose. Hein. Charles et Carlos. Ouais. Bon. Après c'est, je pense que c'est enfin, si je peux me permettre, c'est, on parle de choses qui ont été filtrées par différentes personnes, par des médias, par peut-être un moment de frustration dans la vie de Max. Je pense que c'est ce genre de décision, tu ne la prends pas à la légère déjà. Et je pense que même lui doit voir venir sur plusieurs années avant de la prendre. Donc qu'il ne reste pas en F1 jusqu'à 42 ans, c'est possible.
Oui, comme beaucoup.
Parce que Alonso, quand il a commencé, il y avait 14 Grands Prix par an. Là, il y en a 24 déjà. Donc c'est vrai que c'est usant. Donc après, qu'il a envie d'arrêter à 35, pourquoi pas. Mais enfin, sur le compte de Max, ce ne sera pas la même chose que les autres. Donc il pourra aussi te le permettre.
Allez, on enchaîne. Autre inconnu, tant à court qu'à long terme, c'est bien sûr l'avenir d'Alpine.
Il va être court, ce chapitre.
Ouais. Bon, vous l'êtes. Hein.
Est-ce que l'écurie Alpine peut rebondir ? Zéro pointé à Monza. Les joies du podium de Pierre Gasly aux Pays-Bas étaient dues à la pluie, vraiment au talent du pilote, on peut dire ça. Guillaume n'est pas nous, avec nous cette semaine, mais on a du mal.
On peut comprendre.
Il avait du mal à défendre Gasly. Il avait du mal à défendre Alpine, surtout.
Non, mais ça m'a fait plaisir pour Gasly. Ça montre vraiment qu'il a un potentiel énorme, ce pilote. Mais quel est le mal dont souffre Alpine ? Souvent, l'écurie Alpine met en avant le déficit moteur, Eric. On l'a vu à Monza, le moteur, c'est important. C'est étonnant parce qu'on entendait dire qu'ils avaient tout misé ces dernières années sur le moteur, quitte à ce qu'ils soient un moyen fiable. Et aujourd'hui, il aurait 20 à 35 chevaux de déficit, aurait déclaré l'ancien team principal Schaffner. Du coup, j'ai le moteur, hein, Alpine demande une dérogation. Est-ce que quelque part, Eric, toi qui connais cette écurie, tu as dirigé une Stone qui était du temps de Lotus, qui était déjà la même écurie, est-ce qu'il n'y a pas un mal plus profond, Eric ?
Plus profond, je pense que c'est plutôt un mal plus horizontal, on va dire. C'est-à-dire qui touche tout un tas de domaines. Donc le moteur n'est peut-être pas le meilleur, le châssis n'est définitivement pas le meilleur. Et aujourd'hui, ils n'ont pas forcément la bonne dynamique. Et donc il y a tout à reconstruire, malheureusement, chez Alpine.
Donc on a vu le départ de Laurent Rossi, le départ de Schaffner, de Permane, de Fraig. Permane qui était là depuis...
Le dernier.
Voilà, depuis Benetton, je ne sais pas si ça fait des années. Et tu m'as toujours expliqué qu'il y avait d'un côté le pôle moteur à Viry-Châtillon et de l'autre le pôle châssis à Eschtone. Est-ce que cette organisation doit être mise en cause ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il doit avoir une tête.
Non, ça doit être géré différemment. Regarde Honda et Red Bull, et je en parle en connaissance de cause, ça marche très bien. Et Honda est au Japon.
Ça n'a pas été simple.
Je sais que ça n'a pas été simple, puisque la mise en place a été compliquée. Justement.
Quand le moteur avait un problème et qu'il devait repartir au Japon pour être inspecté et revenir en Angleterre, perdais une semaine dans la vue.
Parce qu'à ce moment-là, c'était encore plus compliqué parce qu'il y avait des problèmes. Mais quand la machine fonctionne et roule, ça fonctionne très bien. Après, il y a une dynamique. Viry et Enstone travaillent depuis maintenant 20 ans, 30 ans ensemble. Donc il y a quand même des moyens aujourd'hui technologiques en plus qui permettent de travailler mieux. Après, c'est plein de choses. C'est l'impréhension de la culture anglaise, l'impréhension de la culture enstonienne, je l'appelle, parce que Enstone, en plus, a sa propre culture. Et puis, avoir des Français chez les Anglais, des Anglais chez les Français. Il faut arriver à faire fonctionner tout ça sur un mode, je dirais, culturellement et opérationnel qui soit apaisé, comme ça. Ils ont gagné dans le passé en étant Benetton, ils ont gagné en étant Renault. Ils ont gagné des courses à l'époque avec Lotus, ça marche, mais ça demande un management spécial, une attention particulière. Et n'en déplaise à Luca Di Meo, c'est un projet en F1, ça met des années. C'est un microcosme particulier, d'autant plus qu'Enstone est basé dans la Motorsport Valley autour d'Oxford. Si vous voulez attirer les meilleurs ingénieurs, il faut que les ingénieurs croient au projet. Tant qu'ils n'y croient pas, ils ne viendront pas. Et ceux qui y croyaient maintenant sont partis. Je ne parle pas de ceux qui ont été sortis. Donc, du coup, à chaque fois que tu fais ça, il faut redémarrer un cycle de 5 ans. Et 5 ans, stabilité, bien parler, un projet, une vision, et faire en sorte que Enstone et Viry se parlent de manière honnête et s'accordent sur des objectifs qui soient réalisables en fonction de l'argent, en fonction des budgets et aussi en fonction, je dirais, de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on doit aussi être flexible, adapté. C'est un travail aujourd'hui. Bon courage à ceux qui vont le faire, parce que c'est un travail de longue haleine sur plusieurs années avant de revoir Alpine devant. Voilà, je suis désolé, je le dis crûment, mais c'est très compliqué.
Ça prend du temps. On peut comprendre la patience tout de même de Luca Di Meo, parce que Renault est revenu officiellement en Formule 1 depuis pas mal d'années maintenant. qu'il y a eu différents teams principales et que finalement, en termes de résultats, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est quelques podiums et une victoire historique, celle d'Ocon, justement, il y a deux ans. Et quand on voit les progrès qu'a fait si rapidement un McLaren, je pense que Dimeo doit se dire quand même il y a des choses à faire.
Ben oui, mais il y a une différence, c'est que McLaren, ils ont un groupe stable plus ou moins depuis maintenant 4-5 ans. Donc
bien que le team principal soit parti l'été dernier.
Oui, mais c'était une personne. Mais le groupe lui-même est resté le même depuis maintenant plusieurs années. Donc ça commence à payer d'avoir les mêmes personnes qui travaillent avec... Parce que tout est dans le détail, tout est dans l'attention au détail. Et donc aujourd'hui, Alpine, ils ont tout changé. Là, tu repars de zéro.
Donc voilà. Là, ça va prendre des années à reconstruire, Eric.
Voilà, je ne suis pas magicien, mais je peux te garantir que ça va mettre un peu de temps. Oui.
Les Ferraris, regardez cette rumeur. Selon le site motorsport.com, Luca Di Meo, le grand patron du groupe Renault, songerait à recruter un ex-grand nom du paddock, Mattia Binotto, que vous connaissez bien, poussé à la démission chez Ferrari fin 2022, après 4 saisons à la tête de l'équipe. L'Italien a 53 ans, donc il est encore jeune, et il n'arriverait pas seul, avec pas mal d'anciens de Maranello. Est-ce que ce ne serait pas l'homme de la situation pour former un tout nouvel organigramme de la marque française, les amis?
J'en sais rien, mais une chose est claire, que, comme dit Eric, ça met du temps, et on oublie parfois... En tant que ferrariste, le temps qu'il a fallu à Jean Todt pour y arriver. Après, ça a fait une série de championnats du monde, mais il n'y est pas arrivé en deux ans. Hein. Il a fallu beaucoup plus que ça. Donc, il faut laisser le temps à des gens en qui on a confiance, qui ont le niveau pour structurer l'équipe et stabiliser l'équipe pour arriver à faire fonctionner le projet.
Après, Binotto, il apprend sûrement de ses erreurs aussi. Donc, quand il arrivera chez Alpine, il arrivera effectivement avec son expérience Ferrari, bonne et mauvaise. J'entends plus dans ce que tu dis. J'entends ce que tu dis dans ce que tu dis qu'il vient en plus avec une équipe. Voilà, y a-t-il d'autres
Il a dit non, hein.
Il a dit non, c'est ça?
Non, il a dit qu'il a dit que ça se ferait pas. Mais bon, après, tu sais, ça fait partie de la négo. Hein.
J'écoutais des podcasteurs italiens
quand il était chez Alfa, pour qu'il n'allait pas aller chez Ferrari, hein, mais on a vu le résultat.
J'écoutais des podcasteurs italiens qui justement doutaient peut-être de l'arrivée de Binotto, notamment au regard du dernier Grand Prix à Monza, où toutes les écuries avaient laissé porte ouverte à Binotto qui venait. Dans le paddock, à la rencontre des équipes. Il exprimait le fait que c'était assez étonnant d'avoir des écuries aussi ouvertes qui allaient accueillir peut-être un futur compétiteur. Donc voilà, il remettait en cause l'idée même que Binotto pouvait aller chez Alpine. Donc à suivre.
Alpine, Laurent, ton sentiment, surtout qu'il y a eu pas mal de grands acteurs qui sont passés par Renault, Prost notamment. Ils ont essayé de reprendre l'organisation de Mercedes, Prost jouait le rôle de Loda. Il y a de très grands noms qui sont passés, qu'ils ont laissé partir.
Je pense que une des difficultés de Renault, c'est que c'est une des rares marques automobiles qui a du mal à franchement séparer la F1 de Renault. C'est-à-dire que tu te rends compte que Ferrari, finalement, bon, tu vois, ils ont dans leur ADN le sport auto, McLaren aussi, et Renault, ça reste quand même une marque grand public, tu vois. Et on a l'impression que la F1, c'est j'y vais, j'en reviens. Et c'est toujours...
Il y a un coup, je mets des moyens, et puis je fais des
économies. C'est toujours un ruissellement de la marque automobile grand public vers la Formule 1. Et je crois avoir compris des échanges même qu'on a pu avoir ensemble, et je t'en remercie, parce que c'est toujours très instructif, que finalement, à un moment donné, il faut être capable de dire bon, c'est un truc à part, c'est un truc qui va nous coûter de l'argent et c'est un truc qu'il faut laisser le temps. Mercedes en est le meilleur exemple. Eux, ils ont vraiment.
C'est un très bon point. Tu prends Ferrari, Ferrari c'est à part. Chez McLaren, c'est une entité à part.
Red Bull,
c'est différent, évidemment, mais c'est vrai que Mercedes Brackley est autonome. Complètement autonome du groupe de Stuttgart. Renault a besoin, toutes les semaines, ils viennent, ils vont à Enstone et ils expliquent en français ou en franglais aux Anglais ce qu'il faut faire. Et ça, il ne faut pas faire.
Je pense que leur plus gros problème, il est là aujourd'hui.
C'est ça qu'il faudrait poser la question. C'est à Fred Vasseur, parce qu'il a quand même démissionné de chez Renault. Il était chez Renault pendant quelques années. Et voilà, aujourd'hui, il est chez Ferrari, donc ça aurait été l'homme de la situation, selon moi, mais c'est tout personnel. Voilà pour les actus presque de l'été, parce qu'on était absent tout l'été. On passe au quiz F1. Elles sont là, les questions. Ils sont prêtes à tout, hein, mes chroniqueurs, pour avoir la, pour essayer de les avoir avant. Je ne veux pas citer des noms, mais ils sont prêts même à me soudoyer, à me faire prendre encore du poids, surtout. Je ne veux pas citer de nom, mais il a été élu à vie maire du village, bah, c'est armé. Bah, quatre questions, vous connaissez le principe.
Ah non, il a fait qu'imiter Laurent.
Quatre questions, une réponse dès la première vous rapporte 4 points. Trois questions vous rapportent 3 points.
Vas-y,
etc., plus de questions. Êtes-vous prêts, messieurs ?
Allez.
Alors, on va lancer le décompte, allons-y. Alors, c'est un pilote. En 2020, j'ai remporté le championnat de Formule 3. En 2020, j'ai remporté...
L'eau pour cher.
Non.
Stroll.
Non, éliminé tous les deux. J'ai débuté en F1 avec l'équipe Alpine en tant que pilote d'essai et de développement. Ah. En 2020,
allez,
j'ai
les
remporté
gars.
Le championnat de Formule
Piastri.
3.
Eh oui.
Voilà, Oscar Piastri, bravo. Ça y est, il est arrivé.
Merci Guillaume, il n'est pas là.
Merci Guillaume, il n'est pas là. Et il marque donc 3 points. Fabrice, tu vois, tu n'as pas besoin de me soudoyer. Oscar Piastri, donc le jeune et talentueux pilote australien qui est arrivé cette année chez McLaren et qui a bien fait apparemment, parce que quand on voit où on est aujourd'hui à Alpine, c'est une bonne pioche. Et moi, il m'a vraiment agréablement... Enfin, il m'étonne, ce pilote. Il a une maturité rare. Hein. Eric.
Ouais, non, puis il a un très très grand talent. Et puis surtout, il a un record personnel, c'est qu'il est champion de FRECA, ce qu'on appelle la Formule Renault Alpine. Champion de F3, champion de F2 dès sa première année. Donc c'était jamais arrivé, ça. Et c'est pour ça qu'il est arrivé même trop tôt en F1. Mais bon, il est bien entouré. Puis là, en tout cas, il démontre qu'il a le talent nécessaire pour être en F1.
Alors, un pilote, encore une fois, soyez attentifs, messieurs. Je suis le fils d'un pilote de Formule 1 prénommé Yann.
Verstappen.
Non, Yann.
Yos.
Yos.
Ouais.
Donc Alain est éliminé. J'ai débuté dans la même écurie que mon père.
Magnussen.
McLaren en 2014. Kevin Magnussen, c'était ton
père.
C'est Yann Magnussen. Ouais.
Lors de mon tout premier Grand Prix, j'ai terminé sur le podium. Je suis un pilote danois et je cours pour Haas. Il s'agit bien sûr de l'indépassable Kevin Magnussen.
Ouais.
Un autre pilote. Alors, attention, je pense que ça va être peut-être un concours de rapidité. J'ai été couronné champion de Formule 1 dans les années 80. Il faut prendre du risque. On n'a pas eu 100 000 dans les années 80. Ok. J'ai remporté le championnat du monde de Formule 1, mais je n'ai gagné qu'une seule course cette année-là.
Rosberg.
Keke Rosberg, magnifique, monseigneur, bravo. Je suis originaire de Finlande, le magnifique Keke Rosberg, et mon fils est également devenu champion du monde de Formule 1.
Bravo.
Ah non, c'est bien. Je suis fier de toi, mon pépone.
Mon De Camillo.
Mon Don Camillo. Ah oui, autant pour moi. Une écurie, messieurs. Une écurie. Donc pour l'instant, au niveau du score, la régie, ça donne quoi ?
Alors, 3 pour Alain, 3 pour Eric et 3 pour Fabrice.
Ah, c'est serré. Ah, donc, voilà. Une écurie. J'ai été fondée en 1917 et cette écurie, bien sûr, est basée au Royaume-Uni.
Il y a quelques-unes.
Ben oui, mais en 117, il y en a moins. Il faut prendre un risque.
Oui, non, pas maintenant.
Laurent, tu peux jouer, tu as droit. Elle a remporté plusieurs championnats du monde, des constructeurs et des pilotes pendant les années 80 et 90.
Brabham.
90. Ouais, ah, ben, tu as répondu.
Williams.
Oui, magnifique. Il revient du diable vert, l'ami. Non, il fait plaisir, l'ami.
Mais je pensais que c'était créé avant, en fait. Ouais, c'est 77 qui m'a dit. Mais après, je me suis dit, il a eu du mal au début.
Les couleurs emblématiques de cette équipe étaient souvent les couleurs blanches, bleu et jaune, les fameuses
Martini.
Couleurs. Ouais. Alors, bien après, mais avant, c'est les couleurs de Mansell et de
Prost. Vert et beige.
Ouais. Et il porte le nom de son fondateur, prénommé Frank Williams, l'écurie. Williams, donc égalité totale entre Laurent, entre Fabrice et Eric. Attention, avant-dernière question. Je vous aide, un ancien patron d'écurie. Avant de diriger mon écurie, j'ai travaillé pour plusieurs grandes écuries de Formule 1 comme Ferrari. Prends un risque.
Ross Brawn.
Il a pris le risque.
Joué. Mon écurie a bien joué.
Bravo, good job.
C'est le Mont. Ouais,
sous ma direction technique, Michael Schumacher a remporté plusieurs titres. J'ai possédé ma propre écurie de Formule 1.
Good job. Solid. Very solid.
J'ai remporté le championnat du monde 2009. C'est quand même un parcours assez étonnant, ce garçon, mots.
C'est quelqu'un d'exceptionnel, en plus. Il est, quand tu le côtoies, il est extrêmement humble, extrêmement réfléchi comme personne. Extrêmement malin, évidemment, parce que plein d'anecdotes avec lui, mais quand j'étais encore en GP2 à l'époque, si tu veux, je l'avais croisé avec Charlie Whiting dans les bureaux, et tu comprends plusieurs choses à ce moment-là. Et bon, ça, je regarderai le reste
mais
pour
non,
moi.
Mais non, tu dis trop, pas
mais,
assez
Non, mais c'est quelqu'un qui était extrêmement, extrêmement malin, qui a influencé énormément la F1. On a vu que l'affaire Brands, je peux l'appeler comme ça, où il a réussi à convaincre l'IFIA au dernier moment de changer la réglementation, en tout cas dans le sens où lui voulait, avec les fameux double fond plat.
Double diffuseur, ouais.
Et en même temps, il était champion du monde.
Un dollar, un euro symbolique, quoi. C'est un truc de dingue.
Champion du monde et plus le budget pour un an.
Et derrière, le revendre à Mercedes.
C'est ça le plus important.
Centaines de millions de dollars.
Non, pas tant que ça, mais bon, ils s'en sont bien sortis en tout cas. De quoi vivre une retraite tranquille et de voilà. Mais bon, c'est quelqu'un qui a quand même changé la F1, qui a été champion du monde avec Benetton, champion du monde avec Ferrari, champion du monde avec sa propre écurie.
Benetton, assez.
Non, mais c'est ce que je dis, il est assez malin. Voilà, après, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que quelqu'un qui, en tout cas, aura marqué la F1 de manière significative, et on peut que respecter le monsieur, quoi.
C'est clair. La régie, ça fait quoi alors ?
Eric devant.
7 pour Eric, il est devant.
Ouais. Donc là, pour revenir, les amis, il faut prendre un risque dès la première
question.
Heureusement,
Guillaume n'est pas là.
Alors attention, c'était un grand patron de la Formule 1. J'ai été président de la Fédération internationale du sport automobile, FISA, dans les années 80.
Todd ?
Non, dans les années 80, laissez-moi finir !
Mais c'est le but.
Mais non !
Max Mosley.
Non ! Tu es éliminé. J'ai signé les accords
Mais non !
Balèze !
J'ai gagné !
Jean-Marie Balèze.
Ben voilà, donc on ne racontera pas. J'ai signé les accords Concorde. Je suis français et durant la rivalité pro-Sénat, on m'a reproché davantage, mon compatriote.
Jean-Marie.
Durant la rivalité pro-Sénat, on m'a reproché davantage, mon compatriote. C'était assez criant quand même à l'époque. Moi qui étais pro-Prost.
Ouais, c'était effectivement. C'était pas très fin, on va dire.
Voilà. Et Olivier, j'ai été remplacé par Max Mosley comme président de la FIA en 93.
Tes questions de boomer là. comment tu veux qu'on réponde à ces questions?
Non, attends, Jean-Marie Balèze.
C'est vrai que c'était bien basé sur les années 80,
même
70.
Même ChatGPT, il les connaît pas, quoi. C'est pas possible.
Ah, il tape les questions sur ChatGPT, je crois pas. Il essaie de... Bon, écoutez, les amis, vous ferez mieux la dernière fois. Vous pouvez vous rattraper tout de suite avec les pronos de Singapour. Les amis, quels sont vos pronos du Grand Prix de Singapour? On commence avec Laurent.
Verstappen, Hamilton, Leclerc.
Leclerc ?
Ouais.
Ah, c'est bien. Hamilton de second.
Ouais. Je me dis, ça tourne, il y a beaucoup de tournants, il n'y a pas besoin de vitesse.
Beaucoup de murs hein, pour Leclerc. Hein.
Oui, mais c'est Latifi qui prend les murs, c'est Leclerc.
Ouais. Eric, ton pronom.
On va dire Verstappen, Pérez et Leclerc.
Verstappen, Pérez, Leclerc. Du côté des tifosi, Fabrice.
Verstappen, Leclerc, Pérez.
Non, arrête avec Leclerc.
Et moi, je suis avec le boss. Verstappen, Pérez, Leclerc. Voilà.
Bon, moi, j'ai Alonso. Donc, je ne vais pas le mettre premier parce que Verstappen... Non, ce qui est quand même impressionnant, on ne l'a pas dit tout à l'heure, c'est que Verstappen, non seulement il domine outrageusement, il est bourré de talent, mais tout lui réussit en ce moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un arrêt au stand.
Non, mais
t'as un microseconde en retard.
Au Canada, il se sort au Canada, il prend le rail, il lui arrive rien.
C'est la spirale du succès.
C'est ça.
Tous les problèmes, c'est son coéquipier qui lui tombe dessus, problème de technique, problème de moteur, etc. C'est hallucinant. Donc, Verstappen premier, est-ce qu'il peut pas, selon moi, il ne peut plus perdre.
Il va perdre.
Touche du bois pour lui. Le deuxième, Fernando, quand même, Alonso. Et le troisième, faire plaisir à Laurent, mais je pense que c'est un Grand Prix qui lui va bien. Lewis Hamilton. On se retrouve dans 15 jours, on remet les cartes à zéro et on verra qui a gagné. Et je l'inviterai à déjeuner. C'est la fin dont on fait la F1. Merci d'avoir suivi, les amis. On se retrouve, vous le savez, chaque semaine avant un Grand Prix. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix du Japon. Donc, c'est dès la semaine prochaine, le Grand Prix du Japon. Donc, on pourra connaître vos résultats. Merci encore, les amis. On refait la F1, c'est le jeudi soir, la semaine d'un Grand Prix. Soyez au rendez-vous. Et n'oubliez pas, pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce. On compte sur vous. À la semaine prochaine. Salut !
Ciao.
Salut.